Bonjour et bienvenue sur le Pod, le podcast qui décortique les problématiques des médias sociaux avec une dose de stratégie proposée par l'agence Ouest Digital. Pendant une demi-heure, parfois plus, nous échangeons ensemble sur les métiers liés à la communication digitale. Savoir-faire, conseils, bonnes ou même mauvaises pratiques du métier, on se dit tout et on partage nos approches, nos trucs et astuces pour être le plus efficace au quotidien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis accompagnée de Brian et d'Alexandre, notre invité du jour. Et nous allons vous parler du droit à la déconnexion sur les réseaux sociaux. Ça paraît simple, et pourtant, dans notre métier, la frontière est mince. En effet, dans un contexte d'hyperconnectivité, comment s'organiser pour pouvoir déconnecter et comment faire accepter ce droit à la déconnexion par les autres? Un dernier mot. Si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être sûr de ne rater aucun épisode. Allez, je vous laisse, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce 23e épisode du Pod. Aujourd'hui, nous allons parler du droit à la déconnexion sur les réseaux sociaux quand on gère des comptes sur les réseaux sociaux pour une structure. Donc pour aborder ce sujet, je suis avec Brian. Bonjour Brian.
Bonjour Gwen.
Mais également avec notre invité du jour, Alexandre, donc qui est directement concerné par ce sujet puisqu'il est le social media manager de la ville de Nantes. Donc avant de poursuivre, Alexandre, je vais te laisser te présenter si tu veux bien.
Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Alexandre Chéré, je suis social media manager de la ville de Nantes et de Nantes Métropole. Ça fait bientôt du coup 10 ans que je suis à la ville et à la métropole. Je suis en charge du coup de la coordination, de la stratégie, de la réflexion autour des réseaux sociaux des deux collectivités. Et voilà, je suis avec du coup deux community managers au quotidien pour animer, modérer et définir toutes les stratégies réseaux sociaux des collectivités.
Ok, merci à toi. Alors, pour vous en dire un peu plus sur pourquoi est-ce que l'on a choisi d'aborder ce sujet aujourd'hui, je vais laisser Brian nous l'expliquer puisque c'était son idée.
Oui, alors merci Gwen. Effectivement, l'idée de ce sujet nous vient d'échanges qu'on a eu en interne à l'agence lorsque j'ai fait une publication sur mon profil LinkedIn à propos d'une idée reçue sur le fait que les personnes qui travaillent dans le social media ne déconnectent jamais. Alors, voilà, donc c'est un post qui a fait un petit peu réagir en interne, réagir dans le bon sens d'ailleurs, puisqu'on a eu des échanges très constructifs. En gros, qu'est-ce que je disais, c'est que on rencontre beaucoup dans nos métiers des personnes qui travaillent dans le social media qui disent qu'elles ne coupent pas parce que c'est pas possible. C'est pas possible de couper quand on fait ce métier-là. Pourtant, le droit à la déconnexion, le fait de pouvoir couper, c'est légal. D'ailleurs, c'est même dans la loi travail de 2016, et cette loi travail que vous connaissez forcément, qui dit que en dehors de ses heures de travail, un salarié n'est pas tenu d'être en permanence joignable. Donc, a priori, un social media manager, un community manager est un peu concerné par le sujet, parce que ça veut dire qu'en dehors de ses heures de travail, on n'est pas censé travailler et donc pas censé faire de modération ou de diffusion de contenu. Mais sauf qu'en fait, dans les faits, c'est souvent juste une déclaration de bonne intention. C'est-à-dire qu'on se rend compte que concrètement, y a un peu souvent des débordements. Y a beaucoup d'études d'ailleurs qui montrent que la majorité des Français n'arrivent pas à couper en dehors des heures de travail. Ça s'est même empiré avec le télétravail, avec la crise qu'on a connue. Pourquoi il y a beaucoup de dérives, c'est aussi que les entreprises doivent le faire. Enfin, dans le cadre de la loi travail, on est censé le mettre en œuvre, mais on n'a pas de sanctions possibles, ce qui fait qu'effectivement, il y a beaucoup de dérives. Pourtant, le fait de couper, ça permet quand même d'avoir des personnes qui sont sereines, qui sont épanouies au travail, qui ont un cerveau qui se régénère, puis qui sont frais aussi au quotidien. Donc c'est quand même essentiel, c'est même pas qu'une question de droit. Et en fait, dans ma tête, au moment où j'ai fait ce poste, ça paraissait très simple. Il suffit juste d'organiser le travail pour que les personnes puissent déconnecter quand on fait du social media. Sauf qu'en fait, on a bien vu en interne dans nos débats que c'est pas aussi simple que ça, en fait, de pouvoir déconnecter. Et on s'est dit, y a bien un secteur qui est quand même directement concerné par cette problématique de déconnexion, c'est quand même le secteur public, surtout quand il y a des relations avec les usagers, qui posent des questions souvent quand eux sont disponibles, c'est-à-dire le soir, les week-ends. On s'est dit que ça serait peut-être bien de faire témoigner une personne qui travaille dans le sujet. C'est pour ça qu'on a sollicité Alexandre pour voilà, qu'on puisse échanger un petit peu sur la manière dont est organisée justement cette déconnexion, et puis en fait les choses auxquelles il faut penser pour l'organiser, parce que c'est, on va voir, c'est pas forcément si simple que ça. Voilà, bon, là pour l'introduction et le contexte.
Merci pour cette introduction complète. Oui, tout à fait. Et ben alors justement, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Alexandre, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, vous, à la ville de Nantes et à la métropole, comment est-ce que vous vous organisez donc pour rester réactif, mais tout en justement tout en vous déconnectant, tout en gardant ce côté vie privée le soir, le week-end. Comment est-ce que vous vous organisez ?
Bah déjà, il y a la notion d'équipe, en fait. Je pense que dans beaucoup de collectivités, c'est vraiment assez différent, mais pour nous, l'important, c'est vraiment le travail d'équipe. On est au sein d'une direction, et donc nous, on est une direction à l'information qui est avec des métiers complémentaires, des métiers qui sont différents, et on compte aussi beaucoup les uns sur les autres pour pouvoir du coup déconnecter et avoir tout le temps quelqu'un qui puisse agir, prévoir, anticiper, voir du coup de manière opérationnelle directement communiquer sur les réseaux. Et donc plus particulièrement sur l'exemple du week-end, on a un système d'astreinte avec une équipe de community managers, de journalistes, et qui se succèdent chaque week-end pour communiquer éventuellement s'ils sont appelés pour d'éventuelles communications sur les sites internet ou les réseaux sociaux. Et donc c'est ce système qui permet au reste de l'équipe aussi de pouvoir souffler, ne pas être appelé, et aussi à notre hiérarchie d'avoir une personne référente pour pouvoir avoir quelqu'un, un interlocuteur privilégié. Et donc c'est vraiment la notion d'équipe, nous, qui nous permet vraiment de souffler, d'avoir aussi confiance en laissant véritablement le travail au travail et ne pas penser le travail à la maison, parce que quand on a des choses à faire au quotidien et qu'on doit les déléguer, on a toujours potentiellement peur que ça soit mal fait, parce que il y a toute une réflexion en amont, voilà, sur les réseaux sociaux, c'est très bien qu'un poste, ça se réfléchit en amont, il y a des formats, des choses à faire, et donc la personne qui doit potentiellement publier, il faut qu'elle soit formée, il faut qu'elle soit aussi à l'aise pour prendre la main, et donc voilà, il y a tout un système à organiser dans l'équipe pour pouvoir du coup être autonome, que chacun puisse agir de manière autonome. Et donc là, l'exemple du week-end, effectivement, il y a une personne qui est référente, quoi.
Qui est identifiée, qui tourne du coup chaque week-end.
C'est ça. Et donc après, effectivement, chacun a été formé. Alors du coup, nous, au sein de l'équipe réseaux sociaux, donc social manager, community manager, forcément, les réseaux sociaux, c'était notre domaine. Mais il y avait la question, par exemple, de la mise à jour des sites. Et donc ça, du coup, nous, c'est moins notre cœur de métier au quotidien. Et donc on a été formé aussi à la mise à jour des sites internet, et à l'inverse, les journalistes qui sont plus sur les sites internet, eux ont été formés aux réseaux sociaux à l'outil qui nous permet de publier sur les réseaux le week-end, quoi.
Et dans cette équipe, vous êtes combien ?
Alors, sur l'équipe d'Astreinte, on est 8, du coup, avec 3 personnes d'équipe réseaux sociaux, 4 journalistes et une responsable des éditions numériques, donc des contenus numériques des sites, quoi.
Et dans quel cas l'astreinte va être déclenchée justement pour ces équipes-là le week-end ?
Alors, il y a 2 cas de figure. Il y a la communication de crise, potentiellement, où il y a une information urgente à mettre en ligne pour pouvoir informer le plus rapidement possible les habitants. Et donc, cette information-là va être sur les sites et sur les réseaux. Et après, il y a l'information, on va dire, plus usagée, fermeture de parc par exemple, ou d'un problème lié au transport ou autre, quoi, quelque chose qui ne sera pas de l'ordre de la crise véritablement, mais qui est important à signaler. Et donc là, effectivement, on va avoir un système d'information qui va nous être transmise soit par mail, soit en fait on a un service dédié en interne qui centralise un peu toutes les informations essentielles autour soit de la crise, soit du coup des informations un peu usagées durant le week-end. Et donc la personne qui est astreinte est en lien avec ce service-là et donc peut être appelée par ce service-là pour passer une information sur les réseaux si juge ça utile aussi. Parce qu'après, il y a aussi la question un peu de l'éditorial derrière, de la pertinence. Toutes les informations ne sont pas forcément bonnes à être transmises à l'instant T. Donc voilà, la personne astreinte est aussi responsable des contenus qu'elle publie. Donc elle est en lien avec ce service-là. Et après, pour les sujets les plus touchy, on va dire, ça peut être aussi le cabinet de la mère présidente qui peut activer la personne, quoi.
Donc qui est indépendant de votre équipe.
Ouais, exactement.
Très bien.
Et depuis combien de temps le système d'astreinte existe ?
Eh bien, c'était véritablement mis en place. Là, ça fait bientôt 2 ans, ouais.
Mmh. Ouais. Et alors, avant l'astreinte, comment vous y êtes ?
Eh bien, avant l'astreinte, en général, on était appelé un peu en fonction de nos compétences, quoi. Ouais. Donc, ce qui fait qu'effectivement, il pouvait y avoir plusieurs personnes d'appeler pour essayer de trouver quelqu'un qui puisse agir sur les ouais. différents médias. En général, c'est un peu les personnes en responsabilité hein, qui étaient appelées en première. Hein. C'est un système un peu pyramidal, donc forcément les personnes en charge du site internet ou des réseaux sociaux étaient appelées en premier, et puis et après en fonction de qui était disponible il y avait une délégation qui était faite, quoi, mais effectivement c'était moins organisé, quoi.
Ouais, du coup le système d'astreinte a permis vraiment d'organiser cette déconnexion aussi des équipes,
ouais.
pour être plus serein aussi.
Ouais, tout à fait. Après c'est sûr que en nombre de week-ends véritablement il y a une action, c'est pas forcément énorme, mais ce qui est souvent le cas dans la com de crise, c'est qu'il vaut mieux se préparer, être vraiment hyper entraîné, hyper rodé dans une organisation, parce que c'est le jour où ça arrive qu'on se rend compte des problèmes d'organisation, de transmission d'informations. Et donc c'est vrai que le conseil véritablement, c'est d'organiser au mieux les tâches et le système d'information pour véritablement être opérationnel le jour J, quoi.
Et alors, les astreintes, c'est vraiment fait que pour la com de crise ou les informations urgentes ou importantes? Ça ne sert pas, par exemple, pour apporter des commentaires, des réponses à des commentaires de citoyens nantais?
Non, ouais, tout à fait, ouais. On a mis en place cette astreinte, effectivement, surtout pour la com de crise et la com de vraiment info usagée importante. On a aussi eu des retours en interne, en gros des services qui pilotent un peu la qualité de vie au travail chez nous et qui avaient vraiment des remarques sur le fait de ne pas continuer en fait nos missions de la semaine le week-end avec ce système d'astreinte. C'est parce que ça peut vite déborder, on peut vite tout d'un coup essayer de rattraper le retard éventuel ou essayer de d'anticiper sur la semaine à venir et de travailler beaucoup plus qu'on ne devrait. Et du coup il y a un cadre effectivement qui a été posé qui est très clair sur ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas durant l'astreinte. Et effectivement, on ne modère pas, on ne répond pas aux usagers, à part si véritablement c'est une com de crise importante, quoi, et que là, il y a véritablement besoin. Mais sinon, effectivement, non, ce n'est pas dans le cadre de l'astreinte, quoi.
Ok.
Donc la modération se fait uniquement sur les heures de travail.
Ouais, exactement.
C'est un parti pris qui est...
C'est un parti pris, c'est une règle pour nous, clairement. Nous on l'applique aussi en interne, enfin, les équipes sont claires là-dessus et les committee managers chez nous, moi je pousse en tout cas pour que ça soit le cas, c'est qu'après une fois qu'on est parti du bureau ou qu'on a déconnecté de son poste de travail, même en télétravail, on ne modère pas un commentaire à 22h voilà, pour effectivement c'est tentant, parce qu'on peut potentiellement le voir. Et que voilà, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est des médias qui sont vivants, des médias sur lesquels on est tout le temps, et c'est des choses qu'on suit, quoi, qui quelque part nous appartiennent un peu, quoi. Donc,
Ouais. Non mais c'est très sain parce que ça veut dire qu'on va pas vous reprocher à un moment donné de ne pas avoir modéré un commentaire le soir ou le week-end. Ouais. Finalement c'est un peu comme la gestion de téléphone quand on est en mairie. Il y a quelqu'un qui répond au téléphone, il y a la réponse directement à l'usager, et sinon la personne rappellera au moment où la mairie est ouverte finalement. Donc il y a vraiment cette capacité à organiser et à dire à quel moment on est disponible pour vous répondre. Ouais. Et pas cette obligation d'immédiateté et de 24-24, comme on entend trop souvent.
C'est vrai que nous, on n'a pas d'engagement, on n'a jamais communiqué dessus, en tout cas, on n'a pas d'engagement sur le fait de répondre véritablement aux usagers dans un certain nombre d'heures, ou même de minutes, ou je ne sais pas. Enfin, il n'y a pas d'engagement véritable. Par contre, effectivement, c'est notre mission de service public de répondre aux usagers, et on l'assume et on le fait. Effectivement, on a imposé un cadre pour éviter, justement, même si les réseaux vivent 24-24, quasiment, on sait très bien que ça serait intenable en termes d'équilibre, de vie privée et de vie pro, quoi.
Alors moi, je me demandais justement, aujourd'hui, on est vraiment dans un contexte d'hyperconnectivité et dans une culture de l'immédiateté. Est-ce que c'est facile à faire accepter aux usagers, ce côté justement de ne pas avoir de réponse forcément instantanée dans la soirée ou le week-end? Est-ce que des fois, vous avez des mauvais retours pour ça, des gens qui ne comprennent pas?
Alors du coup, on a mis en système sur Facebook et Instagram, on a du coup un message
automatique
qui explique que la réponse sera apportée les jours suivants, quoi. Et après, on a globalement quand même vu l'activité qu'on a dans la semaine, on a globalement quand même une bonne perception, je pense, puis il y a une bonne réputation, à mon avis, sur les messages apportés, les réponses apportées. Après, effectivement, il y en a qui comprennent pas, il y en a qui caricaturent, forcément, ils disent « Ah, ils doivent être partis à 16h le vendredi », tout, voilà. Donc du coup, s'ils partent à cette heure-là, jamais ils travailleront le week-end, quoi. Enfin, donc effectivement, il y en a toujours qui râleront. Mais globalement, quand même, je trouve que c'est pas le week-end où on a le plus de questions. Je pense que les gens ont un peu l'habitude aussi, et puis ils sont assez compréhensifs sur le fait qu'on soit pas connecté 24h sur 24 le week-end aussi. Donc ils savent nous solliciter après durant la semaine, quoi. Donc en tout cas, j'ai pas ressenti de bad buzz ou de remarques très négatives sur le fait qu'on soit absent le week-end, quoi.
On vous pardonne de prendre du repos.
Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a une certaine empathie avec les community managers, parce que mine de rien, le métier est un peu reconnu aujourd'hui, et on sait que les community managers sont que l'interface, en fait, et sont pas les décisionnaires non plus, et c'est pas ceux qui sont à l'origine forcément des éléments de langage derrière, des réponses apportées. Et donc que les community managers prennent du repos le week-end, en soi, c'est un peu normal aussi, quoi.
Oui, tout à fait. Et alors, je repose un peu la même question, mais au niveau de la hiérarchie des supérieurs, ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est normal pour tout le monde ici, que vous puissiez justement avoir ce droit à déconnexion.
Ouais, c'est normal. On a même eu des remarques, des directives, parce qu'on en faisait trop par moment, parce qu'on... Forcément, il y a des périodes où on avait envie de couvrir tel événement le week-end, enfin de travailler un peu plus le week-end, parce que mine de rien, le week-end, c'est aussi des moments où on crée de l'engagement avec une communauté, où on est vraiment, on va dire, beaucoup plus visible. Donc il y avait aussi une volonté de notre part, à un moment donné, de communiquer un peu plus le week-end, de couvrir plus d'événements et tout, et on a eu véritablement un frein et une demande, si besoin de communiquer, d'externaliser. Et après, sur la modération, concrètement, ça a été clair de ne pas répondre, parce que qui dit répondre dit engager une conversation, et en fait quand on commence à répondre, ce n'est pas une réponse qu'on apporte en général, c'est plusieurs réponses à suivre. Enfin, c'est véritablement ouais, une conversation qui est engagée avec l'internaute. Et l'internaute, si on lui répond à, je sais pas, à 15h, qui est plus personne à 15h10, parce qu'on a déjà mis, enfin, voilà, transmis une réponse, il ne va pas le comprendre, quoi. Il va dire, bah, y a quelqu'un derrière, donc je peux le solliciter. Donc il faut que le service il soit aussi sur la durée. Et donc ça, c'était intenable en termes de ressources humaines aussi, quoi. Donc, voilà, pour aussi... par rapport à nos semaines qui sont très chargées.
Du coup, il faut effectivement, il y a l'aspect externe où on doit, l'internaute doit comprendre. Il arrive de plus en plus à comprendre que le community manager coupe. Ça, c'est le premier point. Et puis après, il y a aussi l'accompagnement en interne et l'exemplarité même aussi du management en disant attention, ça concerne tout le monde, le droit à la connexion. Donc en fait, on s'envoie des mails et on discute sur les heures de travail. Et en dehors, par contre, on doit pouvoir couper.
Oui, tout à fait. Ouais. Et effectivement, l'importance de la hiérarchie se fait ressentir dans ce droit à déconnexion. Parce que si la hiérarchie pousse pour, ou en tout cas a des réflexes de solliciter, même pour des petites choses, effectivement, ça raccroche... le community manager, l'agent à son travail, mine de rien, et puis il va forcément s'organiser un peu en fonction de ça, quoi, et se dire faut que je laisse mon téléphone allumé, on sait jamais, ouais. Au cas où, même si ça arrive 2-3 fois par an, je sais pas, enfin, et du coup, oui, effectivement, nous, le fait qu'on ait et l'astreinte le week-end et une hiérarchie qui nous a dit clairement les choses sur. Les heures de travail et les sollicitations qui sont vraiment exceptionnelles sur des besoins de corriger potentiellement un poste qui avait été programmé ou quelque chose de ce style-là, voilà, une action en tout cas sur nos réseaux, honnêtement, c'est primordial, quoi.
Ça marche. Moi, je voulais juste revenir au niveau de votre organisation. Est-ce que vous utilisez, alors je ne sais pas si tu peux en parler ou quoi, mais dans votre organisation, est-ce que vous vous aidez d'outils ? Parce qu'on a parlé du côté humain, l'organisation de l'équipe, etc. Est-ce que vous vous aidez d'outils justement pour ça ?
Ouais, enfin, du coup, on a plusieurs outils. Alors, l'outil vraiment qu'on utilise pour l'astreinte et qui nous sert à programmer les contenus ou à publier les contenus en direct si besoin, c'est Agora Pulse. Qui se sont récemment implantés à Nantes en plus, à L6. Je profite pour le petit clin d'œil. C'est un outil qui nous sert beaucoup à programmer et à publier. On l'a pris à la base pour la modération, mais en fait, effectivement, on l'utilise pas mal pour le week-end. Et après, pour anticiper les potentiels sujets, on utilise Asana, qui est un peu un concurrent de Trello, quoi, on va dire, qui est un outil très complet, du coup, pour aussi s'attribuer des tâches et pouvoir chacun contribuer sur de la planification, sur l'anticipation des sujets, les éléments de langage potentiels et tout. Donc ça nous aide aussi à anticiper les sujets par exemple du week-end.
Je reviens sur Agora Pulse et la gestion des commentaires justement en période d'astreinte, parce que on a parlé tout à l'heure de la notion d'équipe. Ce qui est difficile parfois dans une équipe, c'est d'avoir la même façon de travailler, de s'aligner en fait sur la façon dont on va gérer notamment les commentaires et avoir aussi l'historique d'un dialogue avec un internaute. Est-ce que aujourd'hui vous arrivez à l'organiser ça avec les outils que vous avez à disposition ?
Du coup on utilise Agora Pulse effectivement sous cet angle-là, quoi. C'est-à-dire on est véritablement une équipe dans l'outil, quoi. Et du coup on s'assigne des commentaires, des sujets, des publications, et on partage en fait les éléments. On a entré aussi par exemple des réponses un peu prédéfinies qu'on ajuste à chaque fois, et donc ça c'est partagé aussi au sein de l'équipe pour qu'il y ait en gros le même type de réponse apportée pour que d'un community manager à l'autre, en gros la voix de la collectivité soit un peu similaire, parce qu'effectivement quand on s'approprie un sujet, on va forcément communiquer avec ses propres mots Et si on veut le vulgariser un peu pour essayer de l'expliquer sur Twitter en réponse à un internaute, bah, le risque, effectivement, c'est qu'on ait une voix qui soit un peu différente d'un community manager à l'autre. Donc là, effectivement, là, on partage un peu des contenus et puis des pratiques, quoi, on va dire, au sein de l'outil, quoi. Et après, sur la publication, c'est aussi important d'avoir le même... un peu les mêmes guidelines, quoi, en fait, parce que là, je parlais du coup de l'équipe d'Astreinte, il y a des journalistes et des community managers, donc c'est aussi important qu'on ait les mêmes réflexes, quoi, en fait, sur l'outil.
Puis le même ton, le même...
Ouais.
Ouais, d'accord, ok.
Je me demandais, parce que tout à l'heure, tu en as un petit peu parlé, mais on n'est pas trop rentré dans le sujet de la prise de parole en cas de crise. Est-ce que vous avez des processus différents en cas de crise pour votre organisation ?
Alors, en cas de crise, ouais, là, en fait, on a... là, en fait, il y a des nouvelles personnes qui peuvent entrer un peu dans l'équipe, on va dire. Parce que ça se joue vraiment à l'échelle de la collectivité. Donc il va y avoir déjà le cabinet de la maire présidente qui va être beaucoup plus présent, les services aussi. Et puis après, il va y avoir souvent un groupe WhatsApp qui va être créé. Et donc, notre hiérarchie va solliciter aussi les personnes compétentes. On a des chargés de communication, par exemple, qui sont thématisés chez nous. Et donc le chargé de com thématique va être sollicité. Le journaliste potentiellement aussi, parce qu'il va y avoir un suivi sur le site. Par exemple, si c'est une crise au long cours, il va y avoir une actualité qui va certainement être mise à jour régulièrement. Et puis sur les réseaux sociaux, pour le coup, là, on va activer la modération. On va activer la veille aussi, pour savoir aussi comment... La crise s'étend, comment on la gère, est-ce que du coup il va falloir communiquer sur d'autres canaux que sur nos canaux officiels pour aller peut-être commenter d'autres publications où ça parle de la crise, où il y a beaucoup d'engagement, et donc il y a un travail de veille, de modération et du coup d'animation du community manager qui est beaucoup plus conséquent que sur de l'info usagée habituelle. Et donc, en fait, cette petite équipe se constitue assez rapidement. Et donc, elle est constituée par notre hiérarchie, avec la personne d'astreinte, forcément. Mais du coup, effectivement, ça peut s'étendre. Et donc, c'est un dispositif qui est différent de ce que nous, on a l'habitude sur le week-end, quoi.
Mais du coup, c'est un dispositif qui a été établi. N'importe qui peut prendre la chose en main.
Ouais, tout à fait.
Vous avez un process à suivre, quoi.
Ouais, tout à fait. Mais après, la com de crise, c'est toujours là les personnes qui vont être sollicitées vont peut-être pas forcément s'y attendre. Donc après, l'avantage, c'est encore une fois le travail d'équipe, c'est que le chargé de communication qui est thématisé, le jour où je sais pas, il y a une crise sur l'eau ou autre, quoi, il va pas pouvoir, enfin s'il est pas disponible. Il y a un autre chargé de com qui va prendre la main et son expertise de chargé de com va lui permettre quand même d'avoir les bons réflexes, de travailler avec l'attaché de presse, de travailler avec nous sur les éléments de langage et tout. Après, effectivement, en général, sur la com de crise, la personne d'astreinte ne peut pas être seule, donc c'est un peu compliqué. Oui. Donc il va falloir trouver des personnes, quoi. Donc après, c'est au bon vouloir aussi, enfin, la disponibilité des agents. Heureusement, c'est très très rare, quoi.
Oui, c'est sûr. Mais c'est important de le prévoir.
Ouais, c'est ça. Alors, on parle beaucoup de la ville de Nantes, de Nantes Métropole. Il y a des enjeux quand même qui sont assez importants et du coup des moyens aussi pour organiser toute cette déconnexion. Est-ce que toi, tu as des retours de comment ça se passe dans des villes un peu plus modestes de la métropole où parfois on a des personnes qui sont seules parce que. Je pense que les personnes qui nous écoutent vont se rendre compte que ce qu'on dit là, c'était pas toujours adapté à des petites structures. Est-ce que tu sais un peu comment ça se passe
Je sais pas forcément véritablement comment ça se passe, mais je sais au moins qu'effectivement le côté couteau suisse un peu des communicants dans les petites collectivités fait qu'ils sont quand même beaucoup plus, enfin en tout cas qu'ils ont, je pense, beaucoup plus de mal à déconnecter, quoi. Ils sont aussi souvent plus proches du cabinet de la maire ou du maire Et donc, ce qui fait que ça crée une proximité qui se joue aussi sur les médias pour communiquer assez rapidement. Donc, il y a tout un... Je pense à un dispositif qui est forcément, je pense, moins cadré, moins régulé que nous, quoi. Mais après, je sais que dans d'autres structures, je pense par exemple au CHU, ou voilà, même dans des structures où il y a des réseaux sociaux, il y a des médias sociaux qui sont quand même assez suivis et tout, je sais effectivement que ça peut être... Ça peut être compliqué en fait de couper parce qu'il y a un besoin de communiquer potentiellement. Là pour le coup, la com de crise par exemple peut être n'importe quand et c'est pas des grosses équipes du tout, donc c'est un peu effectivement plus compliqué, je pense, sur ce type de structure ou dans des petites communes où en fait les agents font tout, quoi. Et ça, c'est effectivement. Je n'ai pas d'exemple comme ça, mais j'en avais rencontré quelques-uns qui enviaient un peu, effectivement, nous, notre côté vraiment structuré, quoi.
Je pense que c'est... Enfin, dans les débats qu'on avait, justement, sur ce sujet-là en interne, ce qui revenait beaucoup, c'était... le secteur public, c'est quand même difficile de déconnecter, même si on voit que, finalement, c'est possible. Et l'autre argument, c'est... Ouais, mais les toutes petites boîtes, honnêtement, enfin, les petites structures... C'est quand même très difficile quand tu as une seule personne, par exemple, qui gère les réseaux sociaux, ou une personne qui gère toute la com, dont les réseaux sociaux. Parce que, du coup, tout repose sur une seule et même personne. Et c'est vrai que je pense que la taille joue beaucoup aussi sur la capacité à organiser cette déconnexion. Il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que vous faites, c'est que finalement, les personnes qui vont intervenir en cas d'astreinte, ce n'est pas forcément les personnes qui travaillent sur les réseaux sociaux tout au long de la semaine. C'est les personnes qui ont été sensibilisées à la question, qui savent utiliser les outils, qui comprennent comment on les utilise. Ce n'est pas forcément leur métier initial, ils ont une fibre, mais ils peuvent intervenir en cas de problème. Et du coup, il y a cette notion d'équipe et de formation qui est assez intéressante. Ça montre aussi d'une certaine manière qu'une petite entreprise où on a une personne qui a la communication, on peut très bien avoir une personne qui est contributeur, qui est commercial ou même la direction, qui peut intervenir en cas de problème, quoi.
Et nous, c'était le groupe de travail parce que pendant longtemps j'étais tout seul et donc j'étais un peu dans le modèle des petites collectivités, quoi, où du coup je pouvais être sollicité le week-end régulièrement et surtout en étant seul, il y a une responsabilité qui est forte, qui n'est pas partagée. Et donc, il y a derrière aussi la connexion permanente pour suivre tout ce qu'on a produit. Parce que dès qu'on programme le week-end, même si on a vérifié 4-5 fois nos posts, c'est jamais. On a publié le vendredi soir, on est fatigué la semaine. Et voilà, il y a une coquille qui est passée. Et puis, au-delà de ça, il y a toute l'activité de la collectivité. Et là, pour le cas de la ville de Nantes et Nantes-Pétropole, c'est Nantes, c'est une ville dynamique, il se passe toujours quelque chose. Et donc, le week-end, nos centres d'intérêt, notre vie nous ramène aussi au quotidien de la semaine et de la collectivité. Et du coup, moi, effectivement, quand j'étais tout seul, la déconnexion était beaucoup plus difficile, quoi. C'est vraiment véritablement, mais pas par rapport à la hiérarchie qui m'imposait quoi que ce soit, mais par rapport au fait que la responsabilité n'était pas partagée et que ça, c'est vrai que effectivement, la question des contributeurs et de jouer collectif sur ce service public numérique, quoi, elle est essentielle, quoi, c'est clair.
Ça, je pense que c'est un témoignage, un retour qui est assez intéressant, justement, de se dire, oui, il peut y avoir une personne qui est responsable des réseaux sociaux dans une entreprise. Et s'il y a besoin, si on se rend compte que parfois il y a besoin d'avoir quelqu'un le week-end en astreinte parce que c'est un secteur où il y a besoin d'une réponse rapide, c'est peut-être bien d'avoir justement cette vision collective, de faire intervenir des contributeurs dont c'est pas forcément le métier, mais qui ont un peu la fibre sur ces sujets-là. En tout cas, ce qui est important, c'est que ça soit organisé avec un système d'astreinte ou que ce soit mis en place aussi, parce qu'il y a la question aussi des ressources humaines qui doivent intervenir, du juridique,
de la rémunération.
Est-ce que c'est quand même important aussi pour les personnes qui nous écoutent? Moi, dans ma tête, c'est logique en tant que chef d'entreprise. Pour Alexandre, ça l'est aussi sûrement à la ville de Nantes où c'est bien cadré. Mais une astreinte, c'est rémunéré, c'est pas sur la base du volontariat. Et ça aussi, c'est très important à avoir à l'esprit, parce que mine de rien, quand on est d'astreinte, même si on n'est pas déclenché, eh ben, on est censé pouvoir être disponible, et donc on est toujours un petit peu connecté d'une certaine manière au travail, même si on ne travaille pas de manière effective. Ça, c'est quand même un point qui est non négligeable.
Je ne sais pas si tu as d'autres questions, Brian, avant qu'on passe à la partie conseils et astuces.
Vas-y.
Est-ce que, alors du coup, tu disais que quand tu es arrivé il y a 10 ans, donc tu étais tout seul, l'équipe s'est construite du coup autour de toi, à tes côtés. Est-ce que tu aurais du coup des bons conseils ou des bonnes astuces à nous transmettre pour justement réussir cette déconnexion?
Alors, couper ses notifs, en général, pas mal de community managers actifs de notification en tout genre. Sur tous les réseaux, donc je pense qu'en tout cas couper ses notifs, ne plus les voir, ça vous incite déjà moins à aller sur les réseaux, à aller voir ce qui se passe.
Et puis c'est toi qui est dans l'action, c'est toi qui choisis d'aller voir le contenu. Et ça, c'est quand même, je pense, ça fait du bien aussi.
Et après, une fois que les notifs sont coupés, community manager à la ville de Nantes, ça veut aussi dire potentiellement qu'on vit dans la Nantes ou dans la métropole, qu'on vit la vie nantaise aussi par ailleurs. Donc c'est aussi de trouver des moyens pour essayer de s'échapper de tous les sujets nantais pour éviter qu'ils nous rappellent un peu le travail, quoi. Et donc c'est aussi pas mal voyager, en tout cas aller voir ailleurs, aller ailleurs qu'à Nantes, et puis s'évader, pour aller véritablement chercher d'autres choses, quoi, pour se vider la tête, et puis pour partager d'autres choses que la vie nantaise qui est passionnante, mais qui effectivement demande aussi beaucoup d'énergie et de charge mentale, mine de rien, vu que tout ce qui s'y passe et tout ce qui fait notre métier. Et puis après, un autre point aussi, c'est comme on a aussi mis en place le télétravail pas mal au sein de la collectivité, justement depuis la crise sanitaire, depuis le début de la crise, avoir un vrai lieu chez soi pour travailler et bien coupé du reste. Ça, c'est le cas pour beaucoup de monde, et on l'a beaucoup dit pendant la crise sanitaire, mais c'est vrai que c'est assez essentiel, effectivement, d'avoir un lieu défini pour travailler, et qui ne soit pas un lieu dans lequel on vit véritablement au quotidien, pour ne pas mélanger un peu trop le vivre pro et perso, parce que avec le télétravail, forcément le pro s'immisce un peu dans le perso chez soi, donc on va dire physiquement, quoi. C'est un peu les conseils que je pourrais, les astuces un peu.
C'est vrai que dans les métiers du numérique en général, ça peut vite être compliqué de couper, mais et puis comme tu dis, avec le télétravail, alors tout le monde ne peut pas avoir un endroit dédié pour travailler, mais après pour d'autres métiers, ça peut aussi être éteindre son ordinateur et pas le laisser entrouvert ou en veille, ou je sais pas, ou comme Brian, mettre son téléphone pro rangé dans un tiroir.
Moi, c'est ça, le vendredi soir, je rentre chez moi, après, le truc que je fais, c'est j'ouvre mon tiroir, je mets mes clés de voiture et je mets mon téléphone. Bon, je ne dirais pas quel tiroir, du coup, parce que sinon c'est chez moi. Mais et le simple fait de ne pas avoir mon téléphone, en fait, je ne pense pas du tout au travail. Je ne suis pas tenté même de regarder s'il y a quelque chose. C'est des actions qui paraissent symboliques, mais c'est vrai que ça joue beaucoup aussi sur l'équilibre.
Ouais. Nous, c'est vrai que c'est véritablement le travail un peu passion de sa vie et tout, qui fait qu'on est souvent reconnecté, en fait. Même si on est déconnecté, ça vient à nous, parce que l'actualité nantaise fait que ça va nous faire penser à... Enfin, un événement va nous faire penser à une action de communication qu'on a faite la semaine dernière. Et donc, effectivement, c'est véritablement essayer de couper par rapport à ça, et trouver un équilibre surtout entre la vie qu'on a à Nantes perso et la vie pro, et de ne pas essayer de mélanger un peu trop, en tout cas, et d'avoir cette distinction, quoi.
Très bien. Est-ce qu'à l'inverse, tu aurais des erreurs à ne pas commettre, des travers qu'on a vite fait de faire et qui nous empêchent justement de déconnecter ?
Administrer avec ses comptes perso, compte de la ville, par exemple. Moi, je l'ai fait pendant des années et effectivement, ça... Donc, le travail symboliquement en fait dans un fil d'actu, dans un feed sociaux, les posts pro se mélangent avec le perso, enfin tout est la veille aussi se mélange et trouver du coup un moyen d'administrer ses comptes de manière vraiment pro et d'éviter du coup sur ses comptes perso d'avoir ses comptes pro, je pense que c'est voilà, c'est quelque chose en tout cas moi, qu'on a mis en place, moi que j'ai mis en place du coup une fois que l'équipe était vraiment structurée avec les derniers recrutements et tout, parce que je voyais bien qu'au bout d'un moment ça déborde, quoi. Enfin, on est perdu dans les notifs, perdu dans les. Enfin voilà, il y a un mélange qui est assez, quand même, assez difficile du coup après au quotidien. Donc voilà, un exemple ouais, de notifs et des.
C'est intéressant ce que j'ai dit parce que ça me fait penser à un autre débat qu'on a eu en interne chez nous. Alors, c'était pas trop un débat, c'était plutôt des moqueries envers moi, envers ma personne, évidemment. Non, c'est la dernière fois, Marlène me faisait remarquer que je ne suivais pas nos clients sur les réseaux sociaux. Alors, je disais, bon, tout m'intéresse pas forcément. J'adore nos clients, mais tout m'intéresse pas forcément. Et surtout, moi, ça me permet aussi de me préserver, quoi. Enfin, sur mon fil, j'ai quelque chose qui m'intéresse et qui me ramène pas forcément. Sur le pro. Enfin voilà. Donc effectivement, je pense qu'il y a une des erreurs aussi que beaucoup de CM peuvent peut-être être amenés à commettre, c'est de suivre leur propre compte ou le compte de leur client.
Voilà. En fait, si ça t'intéresse vraiment à titre perso. Alors, hein.
Moi, j'ai des clients que je suis parce que ça m'intéresse à titre perso. Mais voilà, c'est ok. Choses, quoi. C'est volontaire. Mais par contre, nos clients, voilà, je n'ai pas forcément d'intérêt pour le sujet, même si dans le boulot, ça me plaît. Mais à titre personnel, bon, moins, et du coup, je ne les suis pas. Et je pense que ça aussi, ça peut être aussi un bon moyen d'arriver à couper. De ne pas systématiquement tout suivre de ce que font les clients.
Ou de sanctuariser en se disant LinkedIn, je suis le pro, et c'est ma veille. Et voilà, sur Insta, je vais faire autre chose. Et essayer d'avoir comme ça une distinction aussi par réseau. Voilà, ça peut être aussi une solution, quoi.
C'est vrai que moi, LinkedIn, quand je suis en week-end ou en vacances, je n'ouvre jamais. Twitter aussi, d'ailleurs.
Et pourtant, nous, on voit justement que beaucoup de gens ne déconnectent pas. Parce que sur LinkedIn, on a une audience qui est assez forte le week-end. Sur des sujets qui sont quand même parfois techno. Enfin, en tout cas, pas forcément très grand public. Souvent quand même assez engageant. Parce qu'on est sur LinkedIn, donc on a un positionnement qui est quand même lié aussi à des sujets où voilà, on sollicite aussi notre communauté pour qu'elle s'engage sur les différentes thématiques. Mais on voit qu'on a beaucoup d'audience le week-end, alors qu'effectivement, on se dit comme ça spontanément que c'est plutôt du lundi au vendredi que les gens sont sur LinkedIn. Quoi.
On a la même chose, nous, au mois d'août. On a de plus en plus, on observe pour nos clients une audience quand même assez conséquente au mois d'août. Alors, ça pose quand même question parce que ça veut justement dire qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à couper. Parce que le mois d'août, c'est quand même le mois où la plupart des Français prennent des vacances. Et souvent, on dit à nos clients, bon, il faut lever le pied, mais pas totalement arrêter. Et même si on lève le pied, on se rend compte qu'il y a quand même encore de la performance au mois d'août. Donc, c'est un point quand même qui n'est pas négligeable. Oui.
Est-ce que tu aurais une anecdote professionnelle à nous raconter en lien avec le sujet du jour ?
Alors, une anecdote, c'est un moment assez fort d'équipe, justement. C'est, comme beaucoup de monde, ça a été la révolution un peu pro-perso, ça a été la crise sanitaire et le premier confinement. Et du coup, nous, on a eu la mise en place tout d'un coup voilà, d'une organisation voilà, qui a un peu bouleversé notre quotidien. Et puis, tout d'un coup, on n'avait plus de sujets puisque tout s'est arrêté. Donc, tous les sujets de la collectivité étaient un peu mis en stand-by. C'était focus sur la crise sanitaire, l'information usagée urgente voilà, lié au confinement et globalement voilà, de sujets de santé publique et tout. Et donc il a fallu bah, tous rentrer chez soi, télétravailler, s'organiser. Télétravail ne nous était pas mis en place. On avait des outils, mais rien n'était encore trop structuré pour travailler tous à distance. Donc on a dû s'organiser. Et en fait, on a passé beaucoup de temps à s'organiser, beaucoup de temps à communiquer à distance. Et en fait, pris dans le, voilà, dans le quotidien, les premiers jours, on a tous travaillé énormément, quoi, véritablement. Et en même temps, il fallait organiser sa vie perso. Et en fait, c'est là où moi, j'ai vraiment... ça a été là, un peu la sonnette d'alarme en disant il va falloir, on ne sait pas combien de temps ça va durer déjà, et là il va falloir véritablement s'organiser. C'est pas comme le week-end où de temps en temps tu vas avoir tes mails ou tout. Là concrètement il va falloir vraiment distinguer la vie pro et la vie perso, s'organiser pour accorder du temps à sa vie perso, quoi, parce qu'on a les enfants à la maison, parce que voilà, tout le monde est à la maison et qu'il faut que la vie continue, quoi. Et en même temps, la vie pro bah, est en chantier, là, en fait. En gros, il y a tout à mettre en place. Et donc, c'est vrai que me retrouver à 22h encore sur mon ordi ou sur mon téléphone avec des collègues sur des groupes WhatsApp, tout, à un moment donné, sur les premiers jours, on s'est tous dit... Et moi, c'était vraiment la sonnette d'alarme. Je me suis dit, là, il va falloir couper et s'organiser et trouver un rythme voilà, qui soit tenable, viable dans le temps, quoi. Et donc là, c'était la coupure nette, quoi, pour moi. Et après, on en a échangé avec les collègues pour que les personnes... en fait, parce qu'en fait, on avait des personnes qui étaient référentes, du coup, chez nous sur la crise. Et donc, en fait, les rôles, comme ça, étaient définis. Et en fait, on a trouvé cette organisation-là pour après que les autres puissent souffler, quoi. Parce qu'on est beaucoup mis à contribution. On a eu énormément de questions sur les réseaux sociaux, forcément. Ça a été un avalanche de commentaires, de messages privés, de cas personnels, en fait, où on devait trouver des solutions. Et donc concrètement, on a essayé de... Voilà, de trouver une organisation qui a bien fonctionné au final. Mais effectivement, le départ, je me souviens, le lundi soir, quand on est rentré chez nous tous, moi j'ai dû travailler jusqu'à minuit, voilà, avec beaucoup de choses à faire, quoi. Et les jours suivants, après, ça s'est mis en place, quoi. Et ça a été une période, véritablement, où là, l'enjeu de la déconnexion a été hyper fort, quoi.
C'est là où on voit en fait que ça se prépare, ça s'organise, ça se structure. C'est pas juste d'appuyer sur un bouton en disant bon, maintenant vous allez tous déconnecter et vous allez tous prendre l'habitude de pas travailler en dehors de vos horaires de boulot. C'est pas juste une déclaration comme ça. Il y a vraiment toute une organisation à mettre en place, quoi.
Ouais, et puis quand on a un travail qui nous tient à cœur, dans lequel on s'investit, ouais, plus, beaucoup, c'est vrai que c'est difficile de lâcher. Hein, c'est difficile de partir en vacances en ayant pas mal fait son travail, mais en tout cas en sachant que tout n'est pas parfait et que les collègues vont devoir prendre la main et qu'ils vont peut-être galérer, quoi. Enfin, alors nous, encore une fois, on en revient à l'équipe, mais c'est vrai que c'est important pour nous tous au sein de l'équipe de bien transmettre les infos, voilà, qu'il y ait une continuité de service qui se fasse sans qu'il y ait le moindre accro, quoi. Et donc ça, effectivement, c'est assez primordial aussi sur la charge mentale et le droit de couper. Et quand il y en a un qui a un coup de mou ou qui a des problèmes perso ou pro, voilà, les autres sont là aussi pour prendre la main. Et après, c'est vrai que c'est hyper important que voilà, d'être outillé et de pouvoir partager et d'anticiper, quoi. C'est vrai que c'est primordial.
Ça marche. Eh bien, je crois que c'est l'heure de la conclusion. Est-ce que tu pourrais conclure ce sujet en trois mots-clés à retenir ou trois phrases importantes pour conclure ce sujet?
Alors, peut-être des mots-clés. Moi, j'avais pensé à équilibre. parce que c'est, pour moi, c'est, après chaque cas peut être potentiellement différent. Je parlais de travail passion, je parlais de, voilà, après il faut trouver un juste milieu, mais en tout cas il faut réfléchir à cet équilibre et là où on place le curseur, quoi, de ce qui est acceptable ou pas, de voir cet équilibre aussi avec les collègues, la hiérarchie, son entourage, quoi, que ce soit partagé, parce que des community managers qui sont un peu seuls à comprendre ce qu'ils font, voilà, tout ce qu'ils font au quotidien, et à ne pas partager avec le reste parce que j'ai l'impression que bah, les autres ne comprennent pas trop ce qu'on fait. C'était souvent le cas sur le métier de community manager. Mmh. Bon, ils passent son temps sur Facebook et Instagram.
Ils ne travaillent pas.
et du coup, c'est important de partager ça, quoi, de placer ses limites et de les communiquer. Le deuxième mot, ça serait respiration, pour moi. C'est trouver vraiment des moments de respirer en dehors des réseaux, avec les réseaux, mais en tout cas de trouver des moments, des espaces où on le travail, on le laisse de côté et on respire, on fait autre chose, on s'évade. Ce que je disais, c'est important d'avoir ces temps-là pour mieux revenir et d'être toujours motivé, d'être, parce que sinon on risque l'overdose, on risque d'être saturé et d'être hyper focus tout le temps sur ça. Même personnellement, l'épanouissement du coup peut être un peu compliqué après sur la durée, quoi. Donc attention à l'épuisement au quotidien. Et puis dernier mot, je l'ai pas mal dit, mais ouais, équipe, quoi. On parlait des contributeurs, c'est pas forcément une équipe réseaux sociaux ou une équipe même de communicants ou autre, mais de partager avec d'autres collègues les enjeux, les contraintes, et puis de partager la charge aussi, quoi. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est plus comme avant, comme il y a 10 ans, juste l'affaire d'experts ou de jeunes ou du stagiaire ou autre qui est le seul à comprendre ce qui se passe sur aujourd'hui c'est collectif, c'est véritablement des médias, quoi. Et puis en plus, il y a beaucoup de compétences qui peuvent être associées au réseau. Donc c'est bien de partager tout aussi, toute la charge que ça entraîne, quoi, et de pas simplement du coup avoir que quelques experts ou un expert en fait au sein de l'entreprise ou de la collectivité ou de l'agence ou autre, quoi.
Ouais, non, c'est hyper intéressant. La notion d'équipe, on est beaucoup revenu, et c'est vrai que ce que tu dis, c'est ce qu'on dit aussi beaucoup à nos clients, nos prospects, c'est qu'en fait, quand on va prendre en main les réseaux sociaux d'une marque, d'une collectivité, peu importe, on en devient son porte-parole. Et donc, à une époque, on le fait toujours, on forme les porte-paroles qui vont à la télé. Pourquoi on ne formerait pas et on ne prendrait pas avec sérieux les gens qui vont prendre la parole sur les réseaux sociaux quand on sait que c'est une caisse de résonance qui est quand même assez importante, quoi.
Mmh. Oui, et puis que ce soit, on pense souvent à l'animation, mais l'irréputation par exemple et le contact et la proximité, elle se fait beaucoup via la modération. Le bénéfice, en fait, parce que l'animation, elle peut être souvent targuée aussi de communication un peu descendante même quand on fait des publications un peu engageantes, on dit ouais, c'est pour quelque chose d'un peu gratuit, ils veulent susciter du like, du commentaire, et puis c'est tout, c'est pas très sincère en tout cas, voilà. Alors que la modération, c'est sincèrement ce qu'une marque ou ce qu'une collectivité peut faire de plus sincère. Et puis ça lui permet aussi de pousser des contenus, quoi. Enfin, de mettre en avant des idées, des engagements. Et effectivement, ça, c'est un travail collectif, quoi. Ça peut pas être le travail d'une seule personne qui va connaître l'entreprise par cœur, ou la collectivité par cœur, et qui va pouvoir répondre du tac au tac. Ça se construit, effectivement, et ça se partage, quoi, pour aussi trouver des nouveaux angles, potentiellement, des manières de communiquer qui viendraient de quelqu'un qui n'a rien à voir avec les réseaux sociaux et qui a dit « Ah, moi, j'ai pensé à ça, ouais. Pour répondre, on pourrait pousser tel ou tel sujet. » Voilà. Et nous, ça nous arrive aussi, souvent, quand même, d'avoir des réponses apportées aux internautes qui ne sont pas simplement le fruit de l'équipe réseaux sociaux et tout, c'est un travail avec les services, avec le cabinet et tout, et on construit ça voilà, un peu collectivement, quoi, parce que c'est effectivement, comme tu dis, c'est aussi la voix de la collectivité, et un commentaire, une réponse peut être prise très très largement, quoi. Ah, ils ont répondu ça, ah, vous avez vu.
Ah, ils prennent une position. Non, mais bien sûr, c'est pas négligeable.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup à toi.
Ben, merci à vous de m'avoir accueilli.
C'est toi qui nous as accueillis aujourd'hui.
Oui, c'est vrai.
Dans tes bureaux. Donc, merci beaucoup à toi de nous avoir invités. Et je vais te dire peut-être à bientôt pour un prochain épisode du pod, on ne sait jamais.
Avec plaisir, en tout
pour
cas.
Un prochain sujet. Bonne journée à toi aussi, Brian.
Bonne journée à tous les deux.
Et puis, à bientôt pour un prochain épisode du pod. Quelques mots avant de se quitter. Tout d'abord, vous pouvez retrouver cet épisode sur le blog de l'agence www.keepitsimple.fr, rubrique podcast, ou sur nos réseaux sociaux. Ensuite, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur le pod en nous écrivant à l'adresse podcast@west.digital. Nous serions ravis de savoir ce que vous aimez, ce que nous pourrions améliorer, les thématiques qui vous intéressent ou les invités que vous voudriez entendre. Merci beaucoup pour cet échange. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du pod.